Vous écoutez
RMC.
RMC.
Mais je vais quand même pas pleurer parce que le Barça a pris 4-0 quand même, faut pas déconner les mecs.
C'est la stat qui permet d'estimer la probabilité qu'un tir cadré finisse en but selon où il arrive dans le but.
Tu vas voir, Baptiste, il y a faute quand même.
Il y a un coup de cul, il y a rien d'extraordinaire.
Non, il y en a marre.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Génération After avec Julien Laurence, Paulo Breitner, Fred Armel, Yoann Crochet, les drôles dames, comme tous les lundis soirs de 20h à 22h. Les gars, il y a un but en Ligue 2 entre Metz et Saint-Etienne, Patrick Müller.
Effectivement, l'ouverture du score, un but contre son camp d'un défenseur Saint-Stéphanois. C'est un corner messin frappé par Fally Kandé et Bakayoko qui pousse le ballon dans ses propres filets. C'est un petit événement, si l'on peut dire, dans le sens où le FC Metz n'avait pas marqué depuis, si mes calculs sont bons, 287 minutes. En tout cas, les Messins qui mènent 1-0 face à Saint-Etienne avec donc ce but contre son camp de Bakayoko, le défenseur stéphanois.
Et c'est parti entre le Rayo Vallecano et le Real. 0-0 à l'instant, une percée de Vinicius qui était stoppé coup franc à venir. Voilà les gars, précision également, sachez que c'est un moment important pour l'after. Nous sommes désormais, et ce sera le cas tous les soirs du lundi au vendredi sur Twitch. De 20h à minuit.
C'est pour ça
sur
qu'on fait
la
des piscines, en fait.
Twitch RMC Sport. C'est très simple. Soit vous avez Twitch, l'application, vous tapez RMC Sport et vous nous rejoignez en direct. Vous pouvez voir Fred Armel, le crâne luisant et les muscles saillants de Fred Armel aussi. Le crâne luisant également et la barbe bien taillée de Yoann Crochet. Magnifique pull à capuche. Vous pouvez envoyer vos messages et comme c'est interactif, Twitch, vous le savez, hein, il y a un chat, du stream, comme on dit.
Je suis passé voilà. Plusieurs fois.
Vous pouvez nous regarder sur le Twitch RMC Sport. On les salue d'ailleurs. Bossent bien, ils bossent beaucoup. Ils sont avec nous ce soir, tous les soirs désormais. Donc, l'after en vidéo sur Twitch, messieurs. Julien, es-tu d'accord avec Mikel Arteta? Arsenal joue le titre. Ah, c'est lui qui l'a dit.
C'est lui qui le dit. C'est la première fois.
Et oui.
Ouais, parce que là, il le disait pas. Et après cette belle victoire à Chelsea, cette victoire vraiment impressionnante dans la façon dont ils ont joué, dont ils ont attaqué, dont ils ont défendu aussi, avec leur meilleure équipe possible, c'est l'équipe la plus forte qu'ils peuvent aligner, contrairement à Chelsea qui avait quand même encore une fois beaucoup d'absents, qui se cherche encore. On parlera tout à l'heure rapidement de Potter et de la déception pour l'instant, il faut le reconnaître quand même, malgré les deux victoires contre le Milan. Mais c'est vrai qu'Arsenal, forcément, Arteta, il pouvait pas, après ce match-là et cette performance-là, dire qu'il croyait pas non plus. Ils ont 34 points, ce qui n'était jamais arrivé en 13 matchs de championnat, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du club. Même la saison des Invincibles, ils avaient que 33 points à ce stade-là de la compétition. Donc c'est vrai que il l'a dit, il a aussi dit que ce serait une saison très longue, qu'il allait se passer beaucoup de choses, que voilà, que City était tellement fort aussi, ce qui est vrai. Mais plus cette saison avance, plus cette équipe progresse, plus elle gagne en maturité et plus elle se développe comme on s'y attendait, mais peut-être plus vite encore que ce à quoi on s'attendait. Ils ont marqué sur coup de pied arrêté, encore une fois. C'est l'opportunité pour saluer l'énorme travail de leur entraîneur français des coups de pied arrêtés, Nicolas Jauvert, qui fait un travail fantastique et qui est un ami de l'after. Donc voilà, bravo Nico,
c'est
encore une fois.
D'où l'intérêt encore une fois d'avoir un spécialiste au quotidien.
Oui, bien sûr, mais après,
c'est incroyable que des grands clubs n'en aient pas encore aujourd'hui.
Mais moi, je comprends pas.
Je pense au PSG notamment. C'est fou.
Moi, je comprends pas. Si c'est aujourd'hui, on l'a répété assez souvent. À ce niveau-là, tu gagnes des matchs sur des petits détails.
Et
ben, les coups de pied arrêtés, si t'as 10 corners ou 10 coups francs excentrés dans un match, et ben, ça peut compter comme 3 ou 4 occasions, voire une ou 3 occasions franches. Et c'était le cas avec ce but d'Arsenal. Encore une fois, la façon dont Chelsea a encaissé ce but est honteuse au niveau défensif, mais après Arsenal aurait pu marquer d'autres buts, ils se sont créés beaucoup d'occasions. Pour Chelsea, c'est limite pathétique, une performance pareille à domicile. Je sais pas trop ce que Graham Potter a voulu faire, ni dans sa composition d'équipe, ni dans ce qu'on a vu pendant le match. Aubameyang a joué en pointe, il a touché 8 ballons, il a fait 3 passes en une heure de jeu. C'est incroyable. Lui pourtant qui était au cœur de toutes les attentions, tous les regards, c'était le match contre Arteta qui l'a dégagé d'Arsenal, qui se déteste. Avant le match pour BT Sport qui montrait le match en Angleterre, ils avaient fait une petite bande annonce, si tu veux. Il lui avait dit mais non, il y a rien. Maintenant je suis un bleu, il y a rien de personnel entre nous. Donc forcément après la défaite et son match pathétique, il s'en est pris plein la gueule sur les réseaux sociaux, ce qu'il a bien cherché quand même. Donc voilà, c'était vraiment une journée à oublier pour Chelsea et une journée assez incroyable pour Arsenal.
Arsenal qui finira avant la trêve du mondial. Ouais, Polo, à Wolverhampton. Ouais. Vas-y, Polo, après Fred.
Ouais, pour Arsenal, il y a d'où tu c'est quoi pour toi le facteur qui fait qu'Arsenal est marche comme ça? Parce que moi je vois une équipe super jeune, je vois à mon avis le plus âgé dedans c'est le Xhaka, un truc comme ça. Tu as relativement peu de recrues sauf Martinelli sur le côté gauche, tu as Gabriel Reus qui est en train de revenir au niveau qui était le sien. C'est quoi pour toi le facteur qui fait que cette équipe fonctionne? Parce que j'ai du mal, si tu veux, à alors que Arteta travaille bien, c'est une bonne, c'est une chose.
Il y a des recrues, Fredo, Zinchenko et Gabriel Jesus aussi, hein, qui sont arrivés.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Quand
c'est
même.
Vrai. C'est vrai, ouais.
Ouais, avant de répondre, Julien, avant de répondre, excuse-moi, faut que je libère Nico Paul. Alors, si c'est la mi-temps à l'Euro de handball entre la Roumanie et la France.
Ouais, et les Bleus ont passé la vitesse supérieure. Un plus 6 pour l'équipe de France, 17 à 11. Elles ont broyé les Roumaines en défense, elles leur ont fait mal et elles sont très bien parties dans ce match. Plus 6 pour les Bleus.
À tout à l'heure, Nico. Julien, la réponse à Polo.
Alors, je pense rapidement, Polo, pour moi, Arteta, c'est du très très haut niveau en tant qu'entraîneur. Pour moi, c'est niveau élite. Il y a aucun doute là-dessus.
Et manager très, très également, haut. Julien aussi.
Enfin oui, mais je dis entraîneur à la française. Mais ouais, il est manager. Il restera pas toute sa carrière à Arsenal, mais je pense qu'il ira très très haut, très très vite.
Bah justement.
Et je pense aussi que l'arrivée de Gabriel Jesus et surtout de Zinchenko est un des facteurs. Parce qu'on l'a vu hier encore contre Chelsea, il le fait jouer comme à City finalement. Mais de toute façon, il y a tellement de points communs entre le City de Guardiola et le Arsenal d'Arteta, ce qui est normal puisque Arteta est le disciple de Guardiola. Ils ont travaillé 3 ans ensemble à City, mais te faire jouer Zinchenko à l'intérieur comme ça, finalement comme un deuxième milieu de terrain axial avec Xhaka devant Partey, qui te permet notamment, enfin à côté de Partey pardon, qui te permet de battre le pressing adverse, surtout quand il est mauvais comme celui de Chelsea, qui t'offre tellement de solutions, c'est assez incroyable. Et je pense aussi que l'arrivée de Jesus et de Zinchenko, juste pour finir, en termes d'exigence de ce qu'ils avaient connu à City sous Guardiola, qui est l'un des coachs les plus exigeants au monde, a haussé le niveau de tout le monde à l'entraînement, en match, des exigences de chacun à Arsenal. Et Zinchenko, c'était marrant, disait hier après le match, moi de l'extérieur, quand j'étais pas à Arsenal, j'entendais toujours les gens dire ouais mais Arsenal c'est top, si c'est top 4 c'est bien, je suis arrivé dans ce club aujourd'hui, il faut qu'on dépasse tout ça, top 4 c'est plus suffisant, aujourd'hui on doit chercher le titre, les trophées. Et je pense qu'ils ont vraiment amené avec eux l'exigence du City de Guardiola.
Alors tu sais que tu parlais d'Arteta, Julien, les performances de l'Espagnol sont extrêmement suivis du côté de Barcelone et son nom est régulièrement cité pour l'année prochaine si d'aventure Xavi ne restait pas.
C'est pas possible.
Il est présenté comme un
successeur légitime.
Mais très 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 légitime. Et l'école Guardiola au Barça, ça rappelle de bons souvenirs quand même. Hein.
Bon, de toute façon, juste pour finir, on a eu les disciples de Ferguson. On aura les disciples de Guardiola. On voit Compagnie, le travail que fait Compagnie à Burnley. Gaël Clichy sera bientôt l'entraîneur. Il sera très fort aussi. Voilà, beaucoup de joueurs qui ont eu Guardiola comme entraîneur, que ce soit en Angleterre ou en Espagne, bientôt seront tous de très très bons entraîneurs. Enfin, pas tous, mais beaucoup de très bons entraîneurs.
Bon, je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, le doc sur Arsenal, sur Amazon. Hein, je fais de la pub pour des concurrents, mais quand même, on voit tout le travail au quotidien de Mikel Arteta, qui est plus qu'un entraîneur, bien sûr, qu'un manager, un leader d'homme, un super DRH également.
Il fait un boulot énorme. Masque un entraîneur.
Exactement.
Plus qu'un entraîneur, c'est bon pour aller au Barça.
Arsenal, quand même, ça sent bon, en tout cas pour le top 4. Hein, ils veulent plus, mais déjà 11 points d'avance sur la 5e place de Manchester United. Fred, l'Atlético va pas très bien.
Non.
Nul contre l'Espagnol, avec une grosse partie pendant le match en supériorité numérique. Juste, excuse-moi, Fred, Saint-Etienne vient d'égaliser Patrick Müller.
Effectivement, 25e minute dans cette rencontre et ce but égalisateur en effet signé, me semble-t-il, Wadji avec Kiki Kouyaté, le défenseur messin qui le laisse partir dans son dos. L'égalisation. Et petite précision, je vous ai dit tout à l'heure que le but contre son camp de Saint-Etienne était l'œuvre, si je puis dire, bien sûr, de Bakayoko. C'était en réalité Jean-Philippe Crasso. Okay. En tout cas, ça fait un partout entre Metz et Saint-Etienne après 25 minutes dans cette rencontre.
Le Real est mené,
et voilà. Et le Real est mené. Ouais, il remet sur la pelouse de but de Comesaña à la 5e minute, à Vallecas contre le Rayo. Le Rayo qui est une équipe, ils ont gagné à Séville la semaine dernière. C'est toujours très dur d'aller jouer à Vallecas, c'est un tout petit stade. Il y a peu d'espace. Le public est pas très nombreux, mais enfin, il est très puissant. Il est très sur les joueurs. Moi, j'adore aller à Vallecas parce qu'on est à 1 mètre des joueurs, quoi. Donc, ça, c'est super pour vivre les joueurs avec le match. Bon, l'Atlético. La dégringolade continue après cette élimination, non pas de la Ligue des Champions, non, mais aussi de la Ligue Europa, c'est-à-dire que terminer quatrième d'un groupe qui était quand même beaucoup, qui semblait vraiment accessible, la fin de Diego Pablo Simeone semble actée. Alors, pas en cours de saison parce que après plus d'une décennie glorieuse avec l'Argentin, c'est pas possible qu'il soit viré en cours de saison. Mais tout le monde est en train de, en tout cas, de se faire à l'idée qu'il faudra qu'il parte en fin de saison. Le match, c'est-à-dire qu'on pouvait s'attendre à une réaction après l'élimination, c'est-à-dire que voilà, c'est l'équipe de Pablo Simeone, tu vois, c'est de Diego Simeone, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a des coronaises, comme on dit. Bah là, il n'y a pas eu. Et chose très rare, ce qu'on appelle la tribune d'animation est restée dehors pour la première mi-temps. C'est très rare à l'Atlético parce qu'en général, ils sont toujours à fond derrière leur équipe. Ça prouve bien qu'il y a un malaise. Si même les supporters les plus fidèles commencent à faire la grève des applaudissements et qu'ils n'entrent au stade qu'à la mi-temps, ça veut dire que quelque chose ne tourne plus rond et que finalement, les ressorts sur lesquels a toujours appuyé Diego Simeone, souvent, bah voilà, l'énergie, le courage, l'écusson, enfin tu vois, les coronesses aussi, hein, comme on dit, ça ne fonctionne plus. Et ce match pathétique contre l'Espagnol, avec en plus un João Félix qui marque le but de l'égalisation, qui était encore remplaçant, c'est-à-dire qu'on a un Simeone qui est pas capable de mettre son ego de côté. Et donc, et les noms commencent à circuler. Bah oui, de plus en plus. Et même celui de Luis Enrique, qui va diriger l'Espagne au Mondial. C'est vrai que ça serait pas idiot. Si un entraîneur comme Luis Enrique serait parfait pour l'après Simeone.
Pourquoi ?
Bah, il a un tel caractère qu'il peut supporter les critiques. Il est fort, quoi. C'est-à-dire, et il est capable de créer quelque chose de nouveau. En plus, on se souvient qu'il avait fait évoluer le jeu du Barça. Donc là, à l'Atlético, il faut une évolution. C'est évident parce que ça peut plus jouer dans ce corset depuis comme on le voit aujourd'hui. Et puis un autre nom, moi, qui me plaît bien parce que là, il a une légitimité extraordinaire et il serait protégé pendant longtemps. C'est Fernando Torres.
El Niño,
qui est lui entraîneur des Rubinéas des juniors. Et qui fait un travail magnifique et qui est mais intouchable à l'Atlético. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand il était revenu faire une saison à la fin de sa carrière à l'Atlético, Simeone le vivait très mal parce que les gens applaudissaient plus Torres que lui-même. Et lui, il veut être la star de l'équipe. Et Torres, il est la star absolue. C'est le type qui les a fait remonter en 2001. Et pour eux, c'est voilà, il est intouchable. Et lui, alors c'est un jeune entraîneur, mais on lui donnerait peut-être plus de temps qu'un autre entraîneur parce que c'est l'enfant de la maison.
Un mot sur le match de Griezmann, peut-être.
Griezmann, il fait le boulot, quoi. Franchement, moi, je suis pas inquiet pour Griezmann à la Coupe du Monde, vraiment pas.
D'accord.
Vraiment pas. C'est le problème de l'Atlético, c'est pas Griezmann. Donc, et je pense pas que ça soit. Et c'est quelqu'un. Rappelez-vous quand ça allait pas du tout pour lui au Barça, il disait toujours que l'équipe de France c'était sa bouffée d'oxygène. Et là, comme c'est compliqué, pas pour lui, mais pour l'Atlético en général. Aller en équipe de France, ça va lui faire du bien. Donc, faut vraiment pas s'inquiéter pour lui.
L'Atlético reste quand même troisième de Liga.
Oui, mais voilà. Ça prouve aussi que le niveau général de la Liga a baissé. Parce qu'une équipe qui n'est même pas capable de se qualifier pour la Ligue Europa, elle est troisième du championnat.
Dans un instant, le Napoli, on en parle tous les lundis soirs. C'est des récurrences comme ça, comme Erling Haaland. Sauf que là, on va appuyer un peu sur l'attaquant du Napoli, quand même, Victor Osimhen, qui est en train de cartonner depuis son retour de blessure. 6 buts sur les 4 derniers matchs en Serie A. Et puis, on parlera également d'un duel de grands promus chez toi, Polo, ce week-end, entre l'historique Werder face à Schalke 04. C'est le programme, notamment de Génération After dans un instant. Puis il y aura la Sampdoria, Newcastle également, troisième de Première Ligue désormais. On en parle avec Julien Laurence.